De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucien Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On s'entretient maintenant avec Mme Lisette Trépanier. Elle est la présidente depuis peu quand même. Je me souviens l'an dernier. Troisième année déjà.
Oui,
ça fait déjà
bien.
3 ans ce qu'on vous avait reçu au tout début pour vous présenter aux gens. On a demandé donc à Mme Trépanier, qui est présidente du syndicat des enseignantes et enseignants du Bas-Richelieu. On parlait de patrimoine, c'est une des rares organisations de la région qui n'a pas changé pour Pierre de Sorel, qui est resté avec Bas-Richelieu. Ça fait partie du patrimoine. On parle d'une problématique qui est décriée de plus en plus. On en a déjà parlé. Et c'est un peu désolant de voir que justement, faut encore en reparler parce que le problème semble pas adressé de façon assez importante pour que la problématique disparaisse. C'est d'une part l'épuisement professionnel qui est causé par différents facteurs, le stress qui peut être causé par la clientèle qui est de plus en plus difficile. Le nombre d'enseignants qui est peut-être pas suffisant par rapport au nombre d'élèves. On est toujours il y a également aussi bien sûr le stress qui peut être amené par la précarité de l'emploi. Alors, ce sont tous des problèmes qui sont relatés entre autres par la présence anonyme d'une journaliste du Journal de Montréal qui est allée travailler comme suppléante et qui en pouvait plus de voir entrer les appels parce que à tous les jours, là, elle avait au moins un ou deux cas où elle devait aller remplacer à la dernière minute parce que quelqu'un pouvait pas se présenter ou ne pouvait plus se présenter. Madame Trépanier, comment ça se passe chez nous? Parce que là, ça a surtout mis le focus sur ce qui se passe à la Commission scolaire de Montréal. On sait que c'est une entité beaucoup plus immense. Mais vous me disiez, quand on s'est contacté, que c'est pas tellement différent chez nous.
La pénurie, on la vit ici aussi, la précarité aussi. Quand on parle de précarité, c'est 43% dans tous les secteurs des enseignants qui ont un emploi précaire. Si on y va par secteur, on a 37,3% au secteur jeune, 74% en formation professionnelle, puis 75% aux adultes. C'est très dur.
Parce qu'on sait que c'est quand même des clientèles relativement stables d'année en année, ça.
Oui.
Comment c'est qu'on n'engage pas pour répondre aux besoins?
La peur du ministère, je crois, c'est de donner des permanences. Et si la clientèle baisse, de se retrouver avec des enseignants en disponibilité, qu'il faut payer aussi. C'est qu'en formation professionnelle, comme aux adultes, la clientèle n'est pas obligée d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Là, ouais. Fait qu'il y a un va-et-vient, donc on ne peut pas être certain d'une année à l'autre du nombre d'inscriptions. L'an dernier, il y a eu une enseignante aux adultes qui a obtenu sa permanence après 19 ans d'enseignement. Aïe, c'est oui. Pas rien. Là.
Ah, bon.
C'est le pire secteur.
Je connaissais des cas de 5-6 ans, mais 19 ans, c'est la première fois que j'entends. Oh mon Dieu!
Ouais.
Pas drôle. Ça, effectivement, ça fait partie, comme je le disais, ça fait partie du stress qui augmente.
La tâche est de plus en plus lourde. Les dernières années, il y a eu 1 milliard de coupures.
Ouais.
Là, les élections s'en viennent.
Alors, on a des cadeaux. Là.
Mais c'est pas à la hauteur des coupures qu'il y a eu. La tâche enseignante a été beaucoup alourdie par une surcharge de travail due aux coupures, moins de soutien, moins d'aide. Les classes sont déséquilibrées, ils ont moins de soutien. Puis les éléments forts, à cause de la mode des classes de projets particuliers, souvent vont épurer, vont se retrouver dans des classes particulières, ce qui fait la classe dite régulière est de plus en plus difficile. Alors oui, la tâche est lourde, ça amène des enseignants à être épuisés.
Il y a un phénomène là-dedans aussi là, qu'on peut pas négliger, puis qui a été largement relaté par la journaliste en question. C'est la difficulté de plus en plus grande de la clientèle. Mais ça, comment on adresse ça? C'est pas la faute du ministère. Là.
Bien, c'est les coupures aussi.
Oui.
Écoute, les coupures, ils enlèvent du soutien, ils enlèvent de l'aide à des enfants ou des élèves, là, selon l'âge, qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'un suivi.
On met ensemble des gens qui devraient peut-être être dans des situations particulières.
Ben. Oui.
Okay.
Ou avoir un suivi là, plus régulier d'une personne qui serait en charge de certains élèves. Là.
Et les gens, comment ils vivent ça? C'est sûr qu'il n'y a rien de bien drôle là-dedans, là. Mais est-ce qu'on arrive à s'y adapter un peu? Est-ce que les gens lancent la serviette? Comment ça, sur le terrain, là, vos membres, là, comment ils réagissent?
Bien, c'est sûr que d'un milieu à l'autre, d'une classe à l'autre, la difficulté, le niveau de difficulté n'est pas toujours le même. Mais c'est très difficile. Moi, là, je vois souvent à mon bureau recevoir des téléphones, Puis là, on parle même pas du jeune qui commence, qu'on va dire « Ah, oh, il manque d'expérience, ils ont pas le tour. » Des enseignants là, qui enseignent depuis 15 ans, 20 ans, là, puis qui vont me dire « Je suis plus capable, là, j'en peux pompon, plus, là, ouais, j'y arrive bien, plus. » Ouais. Puis le sentiment, malheureusement, c'est pas normal qu'un enseignant ou une enseignante qui enseigne depuis 20 ans te dise « Je me sens incompétent, je suis plus capable d'enseigner à cause de tel, tel cas, je passe mes journées à les gérer.
Ouais. »
Ce sentiment-là d'incompétence, c'est pas normal. Puis,
vous vivez la même chose que les infirmières, finalement, les infirmières.
D'une certaine manière, oui. Malheureusement, nous, on n'a pas d'heures supplémentaires obligatoires, mais la tâche est lourde et souvent, les enseignants font beaucoup à la maison. Quand on regarde que les gens sortent de l'université, ils se sont endettés. Ça coûte cher maintenant à l'université, là.
Ouais.
Ils ont fait 4 ans de bac, ils sont endettés et 25 % de ces gens-là, en dedans de 5 ans, vont partir aller faire autre chose.
Oui, parce que...
Ça marche pas, là.
Je reviens sur mon stress, le stress financier aussi, et là,
oui, évidemment.
Faut rembourser.
Évidemment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions de salaire. Il faut rendre la profession attrayante, il faut attirer les gens à notre profession, puis il faut aussi trouver un moyen de les garder.
Oui, mais c'était ma prochaine question, c'est... Est-ce que la cohorte de nouveaux enseignants diminue continuellement, vu que c'est largement médiatisé, que c'est pas le fun, finalement, d'aller enseigner, là?
Mmh. Oui, c'est de là que je vous dis qu'il faut trouver des moyens de réinvestir ce qu'on a retiré à l'enseignement, de réparer les dommages causés par ces coupures-là, de manière à rendre la tâche plus facile, puis de dire aux jeunes, oui, là, on va vous aider, ça va recommencer. Vous savez, enseigner, c'est le plus beau métier du monde, mais quand on a les conditions adéquates.
On a toujours dit que ça prenait la vocation, mais je pense que ça devient le point principal pour s'engager, c'est d'avoir la vocation, parce que c'est pas facile.
Oui, mais même quand on a la vocation, quand les conditions sont de plus en plus difficiles, les gens sont affectés à un moment donné.
Avec ce que vous nous décrivez, quand il y a des cas comme celui que vous avez souligné tantôt, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en mesure d'en discuter avec la direction locale? Quelle est la sympathie de la direction locale? Est-ce qu'il y a des petites poignées quelque part pour régler des petits problèmes?
Oui, on essaie toujours. Il y a des directions, comme dans tous les milieux, qui sont plus à l'écoute que d'autres. Mais il faut dire aussi que ce milliard de coupures-là, les directions aussi le subissent.
Ah oui. Oui.
Eux aussi font ce qu'ils peuvent avec les enveloppes, les budgets qu'ils ont, là. Il faut pas s'imaginer que c'est juste... Tout le monde est affecté, dans le fond, autant les spécialistes, les psychoéducateurs, les techniciennes, et les directions aussi sont affectées par ces grandes coupures-là.
Je suis sûr qu'eux aussi feraient appel à des suppléants s'ils pouvaient, des fois.
Peut-être.
Mais côté des suppléants, est-ce qu'on fait appel tant que ça chez nous aussi, là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'absentéisme chez les professeurs à cause de tous ces facteurs-là?
Oui. Il y a beaucoup d'enseignants de plus en plus qui vont demander, heureusement ici c'est permis, c'est pas nécessairement possible dans toutes les commissions scolaires, qui vont demander des réductions de tâches, qui vont travailler à 80%, ce qui donne une journée de congé par semaine, et qui vont passer cette journée-là à corriger, à préparer, puis à travailler de toute façon, mais qui disent « j'arrive pas sinon ». Surtout des jeunes qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont d'autres responsabilités, qui ont des enfants en âge, ils ont besoin de leurs parents, ils vont être obligés de se planifier une pause parce que sinon, ils n'y arrivent pas.
On n'a pas le choix d'envoyer ces deux signaux-là en même temps. Je suis obligé de prendre un break, puis en même temps, il faut que je travaille plus. Parce que dans le cas de ceux qui n'ont pas de tâche complète, c'est de travailler plus qu'ils veulent,
ça.
Les autres.
Puis vous me parliez des conditions ici. Ici, on ne prendra pas quelqu'un qui a tout simplement un bac. On a une pénurie, mais on n'en est pas tout à fait rendu là, qui a un bac qui n'est pas en enseignement. Par contre, oui, quand il y a des liens parallèles. Exemple, quelqu'un qui aurait un bac en musique pourrait être engagé si en musique, il n'y a personne. Je peux vous donner un exemple. Cette semaine, il y a une enseignante qui a été mise pour épuisement, en arrêt de travail, et c'est un enseignant au secteur jeune, primaire. C'est un enseignant d'éducation physique qui a eu le poste parce que la commission n'avait plus personne d'autre de disponible à qui le donner.
Ça fait longtemps que ça arrive, ça. Ça fait longtemps que ça existe. Moi, je me souviens, dans mes années d'école, je me souviens d'avoir vu des profs me confier ou de voir des profs que je savais très bien que leur formation était vraiment tout autre, s'en aller dans des tâches tout à fait différente, parce qu'il n'y avait pas le choix.
Mais c'était pas si fréquent. Puis, tu sais, des fois, ça arrive, le remplacement, c'est pour une journée. Mais des contrats, c'est assez rare quand même, là, qu'on va aller chercher quelqu'un qui ne sait carrément pas sa discipline. Mais au moins, il y a le côté pédagogique, puis on va essayer de l'encadrer, puis on est rendu là, vraiment.
Donc, les solutions à tous ces problèmes-là, c'est des injections de fonds supplémentaires du ministère de l'Éducation?
Oui, puis de valoriser la profession, de nous considérer, on est des professionnels de l'éducation. Faut le valoriser, faut optimiser les conditions de travail. Oui, des sous, mais des sous bien investis. L'argent qui est injecté présentement, là, c'est un pas, mais c'est de l'argent qui est aux aléas des budgets d'année après année qui peut disparaître l'année prochaine ou disparaître avec un nouveau gouvernement.
Puis revenir quand il y a une élection qui s'en vient.
Ouais, on allait en parler.
Mais est-ce qu'il y a des modèles, qui, selon vous, pourraient être appliqués? Je sais qu'on regarde souvent du côté des pays scandinaves, puis ça, on voit que ces gens-là semblent avoir une meilleure réussite scolaire, semblent avoir, les gens ont l'air plus heureux au travail, en enseignement, etc. Est-ce que vous regardez ces modèles-là pour faire des pressions pour qu'on aille vers certains programmes qui pourraient être mieux bâti que celui que... Bon, pas une autre, nécessairement, une autre réforme, non, parce qu'à chaque fois qu'on fait une réforme, on semble s'engouffrer plus.
Ah
là.
Oui, c'est long.
Je ne saurais pas vous répondre précisément. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs. Tantôt, je vous donnais là, les statistiques données par Thierry Carcenti. Il y a beaucoup de chercheurs qui se pensent sur la situation. Malheureusement, moi, je ne suis pas capable de vous répondre là, à savoir si certaines places, il y aurait un modèle.
Vous êtes trop au front, vous, pour...
Oui, mais en même temps, les modèles aussi... Un modèle pourrait être bon dans une certaine société. Puis,
effectivement.
C'est faux. Ouais. Ça prend des études plus poussées, je pense, pour répondre à ça.
Mais Mme Trépanier, on souhaite que tout ça se dénoue le plus rapidement possible, parce qu'à quelque part, c'est notre avenir. C'est l'avenir de la société québécoise qui est en jeu quand on ne prend pas assez soin de nos enseignants qui, eux, doivent faire en sorte de former nos leaders du futur.
On forme les travailleurs de demain. Alors, c'est très important, puis c'est la base. Donc, la base, elle se doit d'être bien.
Ouais.
Ben, bon courage.
Ouais.
Merci
beaucoup. Bonne chance.
On souhaite bonne chance pour la suite des choses. Lisette Trépanier, présidente du syndicat des enseignantes et enseignants du Bas-Richelieu, est avec nous. On va retrouver notre au téléphone. Elle n'a pas pu se rendre, malheureusement, aujourd'hui au studio. On va la retrouver au téléphone, notre collaboratrice de la semaine, Réjeanne Salvaille, qui nous rejoint et parle, elle, du phénomène des infirmières, dont on parle beaucoup dans les médias également aussi au cours des derniers jours, après ceci.